This is the official Prague competition text.
Dictée. L'Europe doit se montrer plus compétitive. Une économie compétitive nous donnera les moyens d'assurer un bon niveau de protection du consommateur, de la santé et de l'environnement. Nous pourrons ainsi améliorer la qualité de vie. Déclin de l'industrie et compétitivité sont liés. Les politiques visant à accroître la compétitivité auront pour conséquence de ralentir le désintérêt de l'industrie. Ces politiques permettront la transition d'une économie industrielle moderne. Cette transition nécessite des changements dans la répartition des emplois entre les divers secteurs. Les pertes d'emplois dans le secteur de la fabrication sont largement compensées par la demande émanant des secteurs de services. Parallèlement à cette nouvelle répartition, il sera difficile pour la main-d'œuvre non qualifiée de retrouver un emploi. Cette catégorie vulnérable souffrira de ce réajustement. Bien qu'il soit certain que ces changements impliquent de lourdes conséquences en termes socio-économiques, l'équilibre de ressources qui en résultera profitera à tous. Les mesures qui permettront d'augmenter le potentiel d'innovation et le capital humain aboutiront à améliorer la productivité et à renforcer nos avantages au plan international. La croissance détermine la compétitivité. Une économie compétitive suppose une augmentation régulière de croissance qui puisse conduire à une amélioration des conditions de vie. Plusieurs facteurs sont déterminants. Les institutions européennes, les États membres ont un rôle à jouer dans la compétitivité et l'objectif commun de trouver les meilleures conditions possibles de sorte que les sociétés européennes puissent vite entrer dans un marché très compétitif avec des chances de réussite. L'émergence d'une forte concurrence en Asie du Sud-Est et en Amérique latine nous oblige à relever un défi pour s'assurer que l'Union européenne est sur la bonne voie. Nous devons suivre les développements et surveiller le niveau de compétitivité de nos économies et de nos entreprises. L'Europe affiche un certain retard en matière d'esprit d'entreprise, lequel, au contraire, conditionne couramment les choix professionnels aux États-Unis. Il est donc absolument essentiel de changer d'attitude envers l'esprit d'entreprise et effectivement d'encourager le travail indépendant. L'Europe a besoin d'entrepreneurs et de conditions favorables à la croissance. Le manque de soutien financier et de main-d'œuvre qualifiée, la complexité des démarches administratives font obstacle à la création et à la gestion des entreprises. Cette conclusion vaut en secteur de haute technologie où le nombre de start-up depuis peu est plus important en Europe qu'aux États-Unis. Leur croissance est freinée par un accès inadapté au capital risque. Ces difficultés font craindre que l'Europe n'ait à faire face à un déclin de son industrie avec les risques que cela comporte. Le sujet, qui fait récemment l'objet de débats publics, est devenu un enjeu politique majeur. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles et elles ressurgissent invariablement en cas de récession ou de ralentissement de la croissance. Tout le monde sait que le processus d'ajustement entraîné par un changement des structures peut peser lourd, notamment au plan local. Cependant, un bon fonctionnement macroéconomique n'est pas seulement favorable à la croissance du secteur de production de l'Union européenne, mais aussi au développement du secteur des services. Réduire significativement le secteur industriel et délocaliser la production pose donc de nombreuses questions très importantes quant à l'avenir de l'industrie dans l'Union européenne. Il est clair que l'Europe a pour ambition affichée de rester une puissance mondiale dans les secteurs industriels considérés comme essentiel au plan stratégique. On peut en déduire que l'Europe se propose d'améliorer notablement ses performances dans des domaines naguère négligés. Mais l'industrie est moins spécialisée dans les secteurs de haute technologie que ne le sont les États-Unis ou le Japon. Elle doit donc maintenir sa position de force dans les secteurs traditionnels, même si cet effort ne suffira pas à assurer un succès économique à long terme. Réduire le secteur industriel nécessite un changement structurel. Le déclin de la part du secteur industriel dans le revenu national, dans les années d'après-guerre notamment, reflète le déclin du secteur primaire dans les années précédentes. Le développement de la compétitivité industrielle est marqué depuis peu par la diversité. Au milieu des années 1990, la croissance du secteur fabrication commence à faiblir et place l'Europe loin derrière les États-Unis. Ce sont les secteurs de haute technologie qui contribuent largement à agrandir cet écart. Cependant, bien que l'Europe se soit montrée très performante à cet égard, la production des biens et des services high-tech est restée inférieure à celle des États-Unis. Il est évident que le secteur high-tech reste un élément clé de la croissance. Son développement est appelé à jouer un rôle décisif dans le ralentissement du secteur industriel, sachant qu'il influence directement la compétitivité des entreprises. La diminution sensible du volume du secteur industriel s'inscrit nécessairement dans le cours de l'histoire. L'augmentation substantielle de la production dans le secteur de la fabrication a donc largement contribué à faire monter les salaires et à rendre les produits manufacturés relativement moins onéreux que les services. Par conséquent, la part de la fabrication connaîtra une phase de déclin. Il a déjà commencé et il continue de frapper nos économies. Pour mieux comprendre les changements structurels, il faut se demander quelles seront les applications de ce déclin. La délocalisation des activités industrielles est la conséquence d'une nouvelle analyse des profits. Les liens commerciaux internationaux permettent de penser que les avantages de la délocalisation ne seront pas réservés aux seuls pays hôtes. L'augmentation de leurs exportations sera accompagnée d'importations plus importantes. La délocalisation, à l'évidence, implique une augmentation des exportations européennes, sachant que la croissance économique s'intensifie
hors de l'Union, contribuant à la croissance
de nos propres économies, bien que dans d'autres secteurs, les emplois, par voie de conséquence, ne diminueront dans les régions désertées par l'industrie que s'ils ne sont pas compensés par des exportations plus fortes vers des pays où ont migré ces industries. La mise en place de ce processus prendra du temps et coûtera cher. Il faut donc disposer d'une main-d'œuvre adaptable qui ne cesse d'améliorer ses compétences. Il est également important de rappeler que les nations vers lesquelles les industries se préparent à migrer sont en général des pays pauvres en développement. Ces nations ont besoin de capitaux pour développer leur économie. Elles doivent trouver des fonds à l'étranger pour éponger leur futur déficit commercial qui reflétera les exportations de capital du reste du monde et les surplus commerciaux correspondants. Il n'est pas réaliste de croire que les pays en développement où les industries seraient étrangères puissent être exportateurs de capitaux en direction des pays industrialisés à haut salaire. Sur la base de ce que nous venons de voir, il n'y a aucune preuve pour le moment que l'économie de l'Union européenne donne des signes de déclin. Il est néanmoins possible qu'un tel processus s'installe à la faveur d'une période de faible croissance, de productivité ralentie et de manque d'innovation. La délocalisation consiste à transférer vers un pays étranger la fabrication de produits. Ce processus est déjà à l'œuvre dans l'Union européenne et reflète une nouvelle interprétation des avantages à tirer d'un changement de lieu. Cette façon de faire amène en fait les décideurs politiques et les partenaires sociaux à se poser un certain nombre de questions. Ces préoccupations ont toujours été présentes, à en juger d'après les débats organisés autour de l'entrée dans l'Union des pays d'Europe centrale et de l'Est. Elles refont surface dans le contexte de la globalisation. Des coûts moins élevés attireront des industries qui ont des difficultés à produire dans un contexte de salaire élevé. Cela favorisera la croissance de partenaires commerciaux moins riches. Jusqu'à présent, la délocalisation se limite aux activités qui nécessitent une technologie limitée et une main-d'œuvre nombreuse. Mais elle s'accompagne souvent de la création en Europe de nouveaux emplois dans les secteurs de services tels que la conception, le marketing et la distribution. Donc, ce type de spécialisation constitue un avantage indéniable du changement structurel en vertu duquel l'Union européenne peut préserver des emplois hautement spécialisés, très productifs et très bien payés. Aujourd'hui et demain, l'Europe doit absolument renforcer cette forme de compétitivité. Pour y parvenir, elle doit encourager la recherche et le développement afin de consolider son capital humain et de développer des conditions favorables à la création d'entreprises et à la croissance. Cependant, il arrive que la délocalisation porte aussi sur les activités de recherche et de développement. Il s'agit d'un danger bien réel pour l'avenir de l'Europe. Certaines sociétés organisent la recherche et le développement, notamment dans les secteurs de la haute technologie, en dehors de l'Europe. Elles choisissent généralement les États-Unis, où elles sont presque toujours assurées de trouver des conditions favorables à leur épanouissement et le personnel adéquat. Plusieurs d'entre elles prévoient déjà d'expatrier leurs investissements ailleurs qu'en Europe, ce qui est déjà le cas pour 40% des fonds propres, si l'Union européenne ne fait pas très vite de gros efforts d'incitation et d'adaptation. Cet avertissement devrait normalement permettre aux décideurs politiques de comprendre que ces activités, que tout le monde réclamait comme étant essentielles au maintien de notre mode de vie, risquent de devenir marginales. Certes, les décideurs n'ont pas le pouvoir de changer les choses dans tous les domaines de l'économie, mais pour d'autres, ils gardent un rôle prépondérant. Ils devraient par exemple prendre acte des mutations qui affectent le monde de l'industrie et faciliter l'osmose entre fabrication et services. Ils devraient aussi être attentifs aux conditions économiques et qui poussent les industriels à délocaliser. De toute façon, la question est de savoir si l'Europe est en mesure de conserver son rôle de leader économique dans ces secteurs qui auront un impact considérable sur le reste de l'économie dans les prochaines décennies. Une Europe élargie, confrontant des structures salariales et des compétences technologiques de plus en plus variées, peut aboutir à une réorganisation plus rationnelle et plus compétitive. S'il est vrai qu'une entreprise n'est compétitive que si elle s'en donne les moyens humains et financiers suffisants, les autorités peuvent jouer un rôle majeur en instaurant des conditions propres à faciliter l'accès à ces moyens. Des conditions économiques inappropriées et un contexte défavorable aux affaires peuvent peser très lourd. Créer un environnement qui favorise la recherche, l'innovation et l'esprit d'entreprise est donc indispensable. Il est essentiel de fournir un cadre de réglementation uniforme pour toute l'Europe, mais il est tout aussi important de mieux promouvoir la compétitivité. Le programme d'investissement pour la recherche se propose de rendre l'Europe le plus attractive aux yeux des investisseurs. Le niveau total des investissements devrait s'élever à 3% du PNB, dont 2% en provenance du secteur privé. Ce plan d'action inclut un ensemble de mesures communes à divers domaines. Toutefois, intensifier la recherche et encourager l'innovation et l'esprit d'entreprise sont des initiatives qui dépendent des seuls États membres. Leur capacité à prendre des décisions qui s'imposent est une importance vitale pour tous. Là encore, les États membres doivent être conscients des facteurs qui influent sur la compétitivité. Une méthode de coordination transparente est un outil très utile dans un domaine sur lequel le pouvoir législatif n'a pas de prise. En tenant compte des spécificités nationales, elle permet d'arriver à une meilleure cohérence des politiques nationales visant des objectifs convenus. Cette méthode permet concrètement de mettre en place un mécanisme de compréhension mutuelle fondé sur la diffusion et l'échange de bonnes pratiques. Elle facilite aussi le suivi périodique des progrès réalisés. La transformation structurelle de nos économies, si elle est apparemment inévitable, amplifie considérablement le rôle des secteurs de services. Ces mutations qui s'imposent entraînent des bouleversements sociaux et économiques très importants. Mais l'importance donnée aux services n'implique pas nécessairement que la production industrielle soit en baisse. Jusqu'à présent, en réalité, ce processus a été systématiquement associé à la croissance de la production. Dans le même temps, les emplois industriels ont subi le contre-coup des aléas de la production. En Europe, le ralentissement de la productivité s'accompagne inexorablement d'une perte de compétitivité. Cette situation est un motif sérieux de préoccupation, car ses conséquences peuvent peser sur l'ensemble du secteur industriel et sur notre capacité à gérer les changements structurels. La perte de compétitivité et le ralentissement de l'industrie sont les deux faces d'une même pièce. Pourtant, il n'existe pas pour l'instant de preuves que l'Europe connaisse dans l'absolu un déclin de son industrie. Ce qui est essentiel désormais, c'est d'anticiper et de se préparer très vite aux défis de l'avenir.